Marie-Christine Lanier, Art et Affinité. Séraphin, avec douce harmonie tu chéris la vie à peine close. Séraphine, que con dulce harmonia la vida que nace, requebrando estás. Chante sa gloire en le regardant avec douleur, car aimant et affligé à la fois, seul un mon Dieu le soulage. Joan Serrerols, moine compositeur catalan du XVIIe siècle. Une pièce qu'on appelle Villancico. C'est une composition poétique et musicale d'origine populaire. L'Église espagnole intégra certaines de ses mélodies dès la Renaissance. Le Villancico, Séraphine, a pour origine une chanson érotique, Marizapalos. Mais à cette époque, le passage du profane au sacré n'est pas problématique. Et au XVIIe siècle, le moine Joan Serrerols transforme la mélodie populaire en une pièce savante, à plusieurs voix. Vous allez entendre le refrain de cette chanson avec une voix, la voix de Montserrat Figueras et accompagnement de guitare espagnole, interprétée par la Capella Real de Catalunya sous la direction de Jordi Savall, qui a contribué à faire redécouvrir Joan Serrerols. Bonjour, nous sommes au XVIIe siècle. Joan Serrerols fut moine en l'abbaye de Montserrat, lieu de pèlerinage important dans toute l'Europe, depuis le Moyen Âge, situé à une trentaine de kilomètres de Barcelone. Un moine bénédictin et compositeur de musique strictement sacrée, des messes et des motets. et des villancicos, un genre musical que les musicologues espagnols qualifient de paraliturgique. C'est lui qui nous accompagnera dans le second volet d'un cycle consacré à une découverte de la peinture espagnole et hispanique des collections de la Hispanic Society de New York, actuellement exposée au musée Jacquemart-André, une exposition intitulée « Splendeur du baroque » de Greco à Velázquez jusqu'au 2 août 2026. Au XVIe et XVIIe siècle, l'Espagne connaît un rayonnement culturel exceptionnel porté par la contre-réforme catholique et la prospérité que lui apportent les richesses du Nouveau Monde, les Amériques. Et on appelle cette période « Siglo de Oro », le siècle d'or. Nous sommes sous le règne des Habsbourg d'Espagne. Il y a 15 jours, nous abordions la première partie de l'exposition Jacquemart-André avec un focus sur les œuvres de Greco, marquées par une spiritualité visionnaire et un style si singulier. Et souvenez-vous, la partie médiane de l'exposition, ce fut une totale découverte avec des œuvres pratiquement inconnues du public français. La naissance d'un baroque américain au Mexique et au Pérou. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque baroque, c'est-à-dire au XVIIe siècle, à la rencontre de figures majeures de la peinture espagnole, Velázquez, Zurbarán, entre autres. Alors, dernier point, c'est la première, mais aussi la dernière fois que ces œuvres sont montrées à un public français en si grande quantité, car en 2027, les nouvelles salles de peinture ancienne de la Hispanic Society vont rouvrir à Manhattan, et donc ce musée n'aura plus l'occasion de prêter autant d'œuvres à la fois. Il y en a une quarantaine. Alors, je remercie Jean-Édouard, et puis le musicien Stéphane qui réalise cette émission. Velázquez, il est la star scintillante de ce siècle d'or. Velázquez est né en 1599 à Séville, une ville très cosmopolite, nous en avons déjà parlé, c'est une des villes les plus peuplées d'Europe, reliée à la mer par le fleuve Guadalquivir, reliée donc aux comptoirs commerciaux génois, napolitains, anversois dans le nord de l'Europe, reliée à l'Afrique du Nord aussi et au Nouveau Monde, donc une plaque tournante. Et l'or et l'argent venus du Nouveau Monde enrichissent la cité, ce qui profite au développement des arts. Velázquez quitte à 24 ans Séville pour Madrid, où il est nommé peintre du roi. Et dès lors, son travail sera de peindre les portraits du roi et de la famille royale. Donc, le portrait, c'est le genre que Velázquez va révolutionner. Vous vous souvenez, l'exposition Jacquemart-André commence avec des portraits flamands. C'est la tradition qui domine en Espagne jusqu'à l'arrivée de Velázquez. Et ce sont des portraits extrêmement froids, rigides, distants, peints avec une manière extrêmement fine. Or, Velázquez va libérer le portrait de ce carcan-là. Inventer un portrait qui respire avec nous, qui a une présence physique réelle dans notre espace et dans lequel on peut sentir l'air tourner autour des figures. C'est la grande révolution de Velázquez et qui va séduire bien au-delà de son temps. Cependant, Velázquez ne commence pas comme portraitiste, mais comme peintre religieux et peintre de nature morte quand il est encore à Séville. Et la salle Velasquez commence avec une redécouverte récente, une scène de cuisine que vous avez sur l'écran de rc.fr grâce à Jean-Édouard, avec une petite cuisinière, une jeune fille derrière une table sur laquelle sont posées une miche de pain et un pot en étain. Alors, selon les chercheurs, c'est probablement le tout premier tableau connu de Velázquez, qui était encore à Séville. En formation, il a tout juste 17 ans. Et il y a des maladresses. Le tableau ne fait pas grand sens, des questions se posent en termes de rapport d'échelle, parce qu'enfin, la tête de la jeune fille est presque aussi grosse que la miche de pain sur la table. Et la cruche en étain et d'une taille disproportionnée. Alors selon eux, selon ces chercheurs, ce serait très vraisemblablement un exercice d'atelier recommandé par le maître de Velázquez, Pacheco. Il recommandait aux apprentis de peindre des natures mortes. C'est ce que l'on appelle en espagnol un bodegón. Pourquoi? Pour apprendre à articuler dans une composition différents éléments animés et inanimés, donc j'ai un modèle vivant et des objets sur la table. Pour apprendre la perspective, pour apprendre le placement des ombres, les articulations dynamiques, et comment à partir d'éléments distincts créer une composition unitaire. Donc c'est sans doute un travail d'atelier, mais on voit déjà, on perçoit la force plastique du jeune Velázquez. Alors ce type de peinture de genre, le bodégone, avec des gens humbles, dans des intérieurs d'auberge ou de cuisine, qui sont attablés autour de victuailles, ou bien de pièces de vaisselle. Ce genre était très apprécié en Espagne et le bodegón vient d'une double tradition. D'abord une tradition littéraire, celle de la littérature picaresque, qui se développe en Espagne à partir du milieu du XVIe siècle et qui raconte la vie des vagabonds et des gens pauvres, d'une manière assez comique d'ailleurs. Et puis il y a la tradition du naturalisme en peinture qui est réactivée par l'influence de Caravage, du caravagisme dans la péninsule ibérique, qui ne passe pas forcément par Caravage directement, mais par toute une série de vecteurs, dont le peintre espagnol Ribera. Enfin, je vous dirais que les objets des bodegones ont été rapprochés des célèbres paroles de Thérèse d'Avila, je la cite, Dieu se trouve aussi parmi les casseroles. Alors, le bodegón espagnol, c'est toujours un peu mystique. Donc, à la question que vous vous posez sans doute, comment est-ce que Velázquez, le jeune Velázquez en Espagne, a-t-il pu avoir connaissance des œuvres naturalistes de Caravage? Eh bien, l'exposition propose un lien. L'histoire de l'art, ce sont toujours des liens. J'aimerais qu'il en soit autant dans l'histoire de la musique. Donc, l'histoire de l'art, ce sont des liens et elle propose un lien génial. Ribera. Ribera, c'est un artiste espagnol. Il est espagnol, il naît à Valence. Et très jeune, il va s'installer en Italie, à Rome d'abord. On ne sait pas s'il a rencontré Caravage qui quitte Rome en 1606, soyons précis. En tout cas, il connaît à coup sûr les œuvres de Caravage restées sur place. Et il va devenir l'un des grands caravagesques avant de s'installer définitivement à Naples en 1616. Or, Naples est une possession espagnole. Donc, ce tableau de Ribera dans les collections de la Hispanic, figure sur le cartel comme une redécouverte. Il était catalogué comme entourage de Velázquez et il vient d'être réattribué définitivement à Ribera. Et le dialogue entre ces deux tableaux, la scène de cuisine de Velázquez et ce paysan de Ribera, tenant une bouteille de vin que je vous montre sur l'écran de rc.fr, eh bien, cela permet d'établir assez clairement comment l'influence caravagesque a pu être transmise par Ribera, parce qu'on sait que Ribera envoyait des tableaux en Espagne. Alors observons ce buveur, c'est un buveur, c'est un paysan pauvre, il est vu à mi-corps, extrêmement frontal, proche du plan de la toile. C'est la réalité d'un homme marqué par la vie qui s'impose d'emblée, et derrière cette figure, il y a une présence tangible, celle du modèle vivant qui a posé pour Ribera. Et cette pratique d'une peinture d'après nature, d'après le modèle vivant, c'est le signe que Ribera s'inscrit d'emblée dans le sillage de Caravage. Ah, le visage rougeau est creusé de rides, les traits sont burinés par le soleil, alors je ne crois pas, comme on l'a beaucoup dit, mais je peux me tromper, que Ribera cherche à donner de la dignité à un paysan, à un démuni, à partir du moment où il s'agit de peindre le réel, de dire la vérité du peuple ou de la rue, de quitter le monde de l'art très sophistiqué de la Renaissance. On ne regarde plus les choses de la même façon et la peinture est forcément beaucoup plus brutale, plus violente. Donc, conclusion, Velázquez a vu des Ribera et il intègre complètement le caravagisme à travers l'exemple de Ribera, d'où l'accrochage des deux tableaux côte à côte. Et je trouve que c'est extrêmement convaincant et brillant. Alors, Cerreros, Joan Cerreros, grand compositeur catalan de musique polyphonique du XVIIe siècle, et moine bénédictin. On sait peu de choses sur la vie de Cerreros. Il est né en 1618 et meurt en 1681. Sa formation musicale, il la doit à la célèbre abbaye de Montserrat, près de Barcelone, où il y avait une Escolania, une école de musique. Et la maîtrise de Montserrat est aujourd'hui l'un des plus anciens chœurs de jeunes chanteurs d'Europe. Cette maîtrise remonte au Moyen-Âge. L'abbaye de Montserrat est sur fond de montagnes qui prennent l'aspect d'orgue minéral avec ces espèces de formes rocheuses, renflées, lisses, verticales, comme des tuyaux d'orgue. Et Cerreros devient moine dans cette abbaye millénaire. Sa redécouverte, il la doit surtout à un autre catalan, Jordi Savall, avec la Capella Real de Catalunya, le grand ensemble choral fondé par Jordi Savall pour interpréter la musique de la Renaissance et la musique baroque ibérique. Cerreros compose en 1655 une Missa de Battaglia, messe de la bataille, pour trois chœurs. Donc c'est une messe trinitaire. Elle célèbre, c'est pour cela que je l'ai choisie, car elle célèbre la conquête espagnole du royaume de Naples, où peignait Ribera. Alors vous êtes un peu surpris, n'est-ce pas, une messe de la bataille, la Missa de Battaglia dont vous allez entendre le début du credo, est tout en élan, en rutilance, et elle s'inscrit dans une tradition qui est celle des combats en musique. Alors, quelques mots sur ces combats en musique. L'origine, à nouveau, est profane. Alors, une des plus célèbres chansons profanes de la fin du Moyen-Âge est intitulée L'homme armé. Or, cette chanson a connu un extraordinaire succès, jusque dans des œuvres religieuses, des messes où elle est devenue une source d'inspiration. Il y a une quantité de messes dont le titre est Messe l'homme armé, avec cuivre et percussions pendant la Renaissance. Alors, vous allez entendre le thème. On va retrouver l'évocation du combat, donc le bruit des armes, l'évocation de la guerre hein, dans le credo de la Missa de Battaglia de Cérérolles, qui sera ponctué de l'intervention des trompettes, fifres et tambours. C'est une messe, mais elle donne envie de partir à la guerre. Et l'interprétation qu'en donne un autre méditerranéen, Jordi Savall, est pleine de chaleur et d'émotion avec ses musiciens et chœurs, emmenés par une Montserrat Figueras rayonnante.
Thank you. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Velázquez fut envoyé à deux reprises en Italie par le roi d'Espagne, Philippe IV de Habsbourg. Et le second voyage eut lieu en 1650. Il est envoyé en tant qu'agent artistique pour acheter des œuvres d'art et notamment des antiques. Et pour cela, il a besoin de la permission d'une personne qui n'est pas facile à rencontrer, le pape. Même quand on est un envoyé de sa très catholique majesté, le roi d'Espagne. Alors, problème. À qui faire des courbettes à Rome quand on se met en mode séduction? L'accès du pape Innocent X, c'est un Pamphili, est verrouillé par toute une série de personnes qui lui sont proches. Il y a son neveu, le cardinal Astalli Pamphili, dont Velázquez peint le portrait, qui est conservé d'ailleurs à la Hispanic Society. Et puis il y a sa belle-sœur, la belle-sœur du pape et, dit-on, sa maîtresse, Donna Olimpia, dont le portrait est montré pour la première fois au musée Jacquemart-André. Cette personne toute vêtue de noir, qui n'est pas forcément, je vous l'accorde, une beauté, elle était non seulement la femme la plus puissante de Rome, mais la personne la plus puissante de Rome à l'époque. Cette femme est un formidable mécène. Vous connaissez la place Navone à Rome, c'est elle qui a fait restructurer la place Navone. C'est elle qui commande la fontaine des Quatre Fleuves au Bernin. C'est dire quel était son pouvoir. Alors, elle aimait aussi beaucoup le théâtre et elle fut élue reine du carnaval en 1651. Quand on regarde le portrait, il vous faudra un peu d'imagination. Mais enfin, elle avait ses jours fantasques, paraît-il. Elle faisait aussi des deals. Je suis sûre que vous comprenez ce que cela signifie. C'est une sorte de prototype de Donald Trump, que Donna Olimpia à Pamphili, dont vous avez le portrait sur l'écran de rc.fr. Velázquez a difficilement accès à celle qu'on appelait la papesse. Elle lui demande une audience avec le très saint père. On peut très bien imaginer ce dialogue. Elle répond à mon Dieu. Je ne suis pas sûre que ce soit possible, mais j'entretiens de très bonnes négociations avec l'Espagne. D'ailleurs, Monsieur Velázquez, mes services de renseignement m'ont rapporté que vous étiez portraitiste. On peut faire un deal, on peut négocier certainement quelque chose, mais je suis très pressée, etc., etc. Et Velázquez comprend et fait son portrait, évidemment, elle ne l'a pas payé. Et bizarrement, une fois que le portrait est achevé, elle et sa garde rapprochée trouvent un créneau pour que Velázquez rencontre le pape. Et là aussi, il va devoir peindre le portrait du pape pour finalement arriver à ses fins et pouvoir remplir la mission que le roi d'Espagne lui avait confiée, c'est-à-dire acheter des bronzes, des sculptures, des marbres à Rome, ainsi que des antiques, mais surtout les sortir de Rome, les antiques en particulier. Je vous montre un buste en marbre de cette richissime mécène, sculptée par l'Algarde, avec cette espèce de coiffure qui vole, extraordinaire. Je vous dis, c'est du Trump tout craché. Et tout cela aboutira au célébrissime portrait du pape Innocent X, conservé à la galerie Doria Pamphili, et qui est un chef-d'œuvre absolu de l'art du portrait et même de la peinture en général. Autre portrait, celui de Juan de Pareja, d'après Velázquez, que vous avez également sur l'écran de Courtoisie. Alors, Juan de Pareja fut l'esclave et assistant de Velázquez pendant 20 ans. Lors de son second séjour romain, Velázquez a peint son portrait, un portrait extraordinaire de ressemblance, de vie que tout le monde admire. Le portrait fut accroché au Panthéon où il y avait des expositions d'art contemporain. C'était un peu comme la FIAC aujourd'hui. Et les Romains admirent ce tableau dont ils peuvent voir le modèle circuler ça et là sous la coupole du Panthéon. Et très très vite, le portrait est acheté par un prince italien et puis il disparaît. Et pendant très longtemps, on a cru que l'original, c'était le portrait de la Hispanic Society, jusqu'à ce que réapparaisse un portrait, un tableau qui est aujourd'hui au Metropolitan et qui est considéré comme l'original. Bien, observons ce portrait, il a une présence extraordinaire. Pareja est représenté sans aucun signe de subordination, il est vêtu d'une cape, d'une collerette en broderie des Flandres, le visage sombre accroche la lumière, donc un chromatisme très réduit. Et c'est très simple, il y a juste un peu de vert, de couleur bronze, il n'y a presque rien. Et pourtant, le portrait vit. À Rome, Juan de Pareja va être affranchi par Velázquez. En Espagne, on considérait qu'avoir un esclave était quelque chose de tout à fait normal, tandis qu'à Rome, c'est tout de même un peu plus difficile. Donc, le portrait de la Hispanic, en réalité, a été peint par le gendre de Velázquez, le gendre et assistant de Velázquez, un certain Del Mazo, M-A-Z-O. Alors, parenthèse, il n'y a pas de Velázquez au Louvre. Ah, ce manque constitue à l'évidence la lacune majeure des collections du plus grand musée du monde. Et en fait, je devrais dire, il n'y a plus de Velázquez, car un tableau fut un des plus célèbres Velázquez du Louvre, l'infante Marguerite, qui y est toujours, elle est délicieuse. Elle fut copiée par Manet, Renoir, Degas, mais ce tableau n'est plus aujourd'hui considéré, accepté. Comme Velázquez, il a été réattribué à ce fameux Del Mazo, le gendre du maître. Et le Louvre fait donc partie du club très très restreint des très grands musées de par le monde aux attributions extrêmement strictes. Dès qu'il y a une hésitation, le nom du maître est retiré. D'autres musées, d'autres très grands musées que je ne citerai pas, ont beaucoup moins de scrupules. Alors, dernier Velázquez que je vous montre, j'ai gardé le meilleur pour la fin. La fin, c'est un portrait de jeune fille, un portrait de la Joconde, de la Hispanic Society. Pourquoi la Joconde? Parce qu'on raconte qu'une petite fille qui était venue à son école a prétendu devant ce portrait qu'il s'agissait de la Joconde quand elle était petite fille. Alors c'est une belle histoire, une charmante histoire, mais aussi une intuition très intelligente parce qu'effectivement il y a un magnétisme qui se dégage de ce magnifique tableau et puis aussi une énigme car on ne connaît pas l'identité du modèle. Mais elle a ce regard très franc, très direct qui immédiatement disqualifie le fait qu'il puisse s'agir d'une infante, d'une princesse de la cour. On est avec un tableau extrêmement familier et il est resté comme inachevé, ce qui ajoute encore à sa spontanéité, à la présence du modèle. Alors, c'est une des plus charmantes énigmes de l'histoire de l'art, et c'est surtout Velázquez au meilleur de son art, avec ce côté non finito dans la partie basse, quand il fait des études, des portraits de ses proches ou de ses amis, il fait les choses rapidement, sauf le visage qui est parfait, extraordinairement bien peint. Et il y a cette présence, c'est la révolution de Velázquez dans le portrait, cette présence tellement saisissante. Cependant, Velázquez a mis une goutte de blanc dans chacun des deux, dans chacune des deux prunelles, dans chaque œil. Et Léonard, puisque cette très jeune visiteuse lui attribuait le portrait, ne le fait pas. Si bien que lorsque vous entrez dans la salle de la Joconde au Louvre, vous avez l'impression qu'elle balaie l'immense salle du regard et qu'elle ne vous quitte pas des yeux, c'est qu'il n'y a aucune goutte de blanc dans ses yeux. Bien. Nous retrouvons le moine bénédictin et devenu maître de chapelle, Juan Cerreros en l'abbaye de Montserrat, avec un autre villancico, cette musique mi-profane, mi-sacrée, qui sert aussi à la liturgie au moment des grandes fêtes. Pendant le siècle d'or, le rôle du villancico dans la liturgie est double. D'abord parce qu'il est en langue vernaculaire. Ceux de Cerreros se sont écrits en langue castillane. Et c'est donc beaucoup plus facile à comprendre pour une population généralement illettrée, évidemment, que le latin. Et d'autre part, grâce à sa musique simple, entre guillemets, avec refrain et couplet, il appelait au chant, au rire, parfois à la danse. Et dans les Amériques notamment, les villancicos attiraient les populations vers les célébrations religieuses et les incitaient à y participer. Alors j'ai choisi un villancico adressé à la Vierge Marie, qui peut entrer en résonance avec les tableaux que nous venons d'observer. Je vous lis le début. Sanctus bellios ojos soles. Tes beaux yeux sont comme des soleils, que con rayos nos defienden, qui nous défendent avec leurs rayons, Maria. Et c'est ainsi que des esclaves espagnols le comprennent. Belle fille de Sion, ta protection nous protège de toutes les nations et de leurs invasions. Y contra sus invasiones nos guarda tu protección. Nous ne craignons plus les fureurs de l'hérétique et du païen, car nous avons une protection invincible de votre main. Longue vie à toi, Marie, qui est la protection de l'Espagne, et que notre nation soit reconnaissante pour ce jour. C'est un chant lexical à nouveau très guerrier, n'est-ce pas? École espagnole du XVIIe siècle brille donc dans le genre du portrait, de la nature morte, le bodegone, et aussi bien sûr dans le genre de la peinture religieuse. À partir du moment où Madrid s'impose comme capitale au début du XVIIe siècle, les foyers provinciaux déclinent, Tolède devient un site périphérique, Valence décline aussi du point de vue de l'art, seul le foyer de Séville se maintient. Zurbarán s'installe à Séville, il va y rester presque toute sa carrière. Je vous montre deux saintes, grandeur nature. L'une est vue de profil, sainte Émérancienne, l'autre de trois quarts, sainte Lucie. Alors, ce sont des tableaux typiques de la production de Zurbarán, qui peint pour des couvents et des monastères. Il peint pour ces couvents des séries de saintes qui sont comme disposées en procession, soit le long des nefs des églises, soit dans les arcades des cloîtres, et qui sont une sorte, qui était une sorte d'idéal de sainte pour les religieuses dans ces couvents. Elles étaient souvent cloîtrées à vie. Donc, des tableau qui donnait en exemple aux jeunes femmes de l'aristocratie qui étaient rentrées dans les ordres des modèles de princesses chrétiennes qui s'étaient converties et parfois jusqu'au martyre. Et l'idée, c'était de montrer des saintes aristocratiques vêtues de vêtements somptueux. Elles sont très idéalisées, bien sûr, et ici, le martyre est évoqué par les pierres et les yeux. Pourquoi sainte Émérancienne fut lapidée, donc elle présente sur un livre les pierres de son martyre. Sainte Lucie, qui est sans doute plus connue, elle est représentée avec des yeux sur un plateau, parce qu'on lui aurait arraché les yeux. Alors ce sont ses yeux sur le plateau macabre qui nous regardent directement. Le peintre en tout cas évite de montrer le sang versé et la souffrance. Je vous montre une immaculée conception d'un peintre beaucoup moins connu, Matteo Cerezo. Une immaculée conception complètement baroque au sens théâtral du terme, avec des détails iconographiques qui sont repris de la vision de Saint Jean dans l'Apocalypse. La couronne de 12 étoiles, le croissant de lune sous les pieds de la Vierge, un soleil radiant, pour un thème qui va être extrêmement populaire en Espagne. Le culte et la défense de l'Immaculée Conception furent cruciaux au XVIIe siècle en Espagne et le débat était très ancien. Il ne sera d'ailleurs résolu par l'Église catholique au XIXe siècle, en 1854, et par un dogme. C'est un débat qui ne porte pas, comme on le croit généralement, sur la pureté mariale, mais sur la pureté de la conception de Marie, la mère du Christ. Que Marie soit pure lorsqu'elle enfanta, tout le monde en était d'accord. Elle est vierge et mère à la fois. C'est le mystère de l'incarnation. Mais, la question était de savoir si elle avait été conçue dans le péché de la chair, disait-on ou non. Dès le premier instant de sa conception, était-elle, par un privilège spécial, née sans péché originel? En d'autres termes, Joachim et Sainte-Anne, les parents de Marie, avait-il éprouvé le terme employé par les théologiens et celui de concupiscence au moment de concevoir la Vierge? Joachim eut-il, c'est un autre terme que j'ai trouvé, employé par les théologiens, eut-il un regard lubrique? C'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est cela qui posait problème aux dominicains, mais vraiment beaucoup de problèmes. Les franciscains et les jésuites, au contraire, défendaient l'Immaculée Conception. Alors, j'avoue que je suis incapable de vous résumer leurs arguments qui me semblent complètement abracadabrantesques. Ah, « Si Marie est née exempte du péché originel, disaient les Dominicains, elle n'a pas à être rachetée par la mort de son fils, ça me semble logique. Conséquence, attention. Les choses deviennent très glissantes. Marie ne fait donc pas partie de la communauté, je cite, des rachetés par la mort sacrificielle du Christ, et donc elle n'est pas comme nous, etc., etc. » Je vous le dis, dès que vous allez sur ce terrain-là, les choses deviennent très glissantes. Et attention, attention, les Dominicains, c'est l'Inquisition en Espagne. Bref, le débat théologique était très intense au XVIIe siècle, mais la croyance en l'Immaculée Conception était vraiment très populaire. Et je crois que tout bonnement, ce que voulaient les gens, c'était juste de faire reculer de plus en plus toute idée de péché de la figure de Marie. Mais pas s'échanger des arguments aussi spécieux. Cela vous explique pourquoi il y eut tant de tableaux sur l'Immaculée Conception à cette époque. Ils font partie d'une dévotion à la Vierge Immaculée, c'est un culte marial que l'Église a mis 800 ans à construire et avec des débats très âpres. Alors, vous ne me croyez pas tout à fait, n'est-ce pas? Vous pensez que j'exagère? Alors, la controverse redouble en 1613 quand le dominicain frère Domingo de Molina, prieur du couvent de Regina Angelorum à Séville, nia en pleine chaire, cette fois-ci C-H-A-I-R-E, donc du haut de sa chair, nia la conception immaculée en déclarant que Marie, alors je le cite au mot près, « Marie a été conçue comme vous et comme moi et comme Martin Luther. » Alors, ça c'est la bombe, imaginez. Bon, Matteo Cerezo, c'est un peintre rare, il est mort jeune, il est tombé d'un échafaudage. Donc on a très peu d'œuvres de lui, son tableau est absolument sublime. C'est une jeune fille qui s'élève parmi les nuages, l'iconographie était très codifiée. Marie doit prendre les traits, je cite, d'une très belle enfant entre 12 et 13 ans dans la fleur de l'âge, avec, je cite toujours, les yeux doux et graves. Ses mains sont jointes et des angelots la portent et accompagnent son assomption. Donc un très beau tableau. Et pour terminer en peinture, je vous montre, c'est un tableau qui vient boucler la boucle. Je vous montre l'extase de Sainte Marie-Madeleine d'un peintre italien, Luca Giordano. Un peintre italien, il est napolitain, donc sujet du roi d'Espagne et disciple de l'espagnol Ribera qui travaillait à Naples. Luca Giordano fut appelé à la cour de Madrid pour terminer la grande décoration à fresque de l'Escorial. Alors la scène théoriquement a lieu à Marseille, puisque selon la légende dorée, Sainte Madeleine quitte la Terre Sainte. Elle arrive à Marseille, elle se retire dans la grotte de la Sainte-Baume et elle passe ses journées à expier ses péchés en se disciplinant. Il y a un martinet qui est présent sur le tableau, à méditer sur la finitude de l'existence humaine en regardant un crâne. Et pour pourvoir à sa nourriture spirituelle, deux fois par jour, alors c'était très très bien organisé, les anges arrivaient, l'emmenaient au ciel où elle communiait et la redescendaient après. Donc Giordano n'avait absolument pas connaissance de ce à quoi pouvait ressembler Marseille, alors il a fait un paysage, il a préféré faire un paysage de la côte amalfitaine et c'est un tableau qui finalement nous rappelle que l'Espagne va bien au-delà de l'Espagne territoriale et péninsulaire. Et pour boucler la boucle en musique, je vous propose d'entendre quelques mesures de Marifa Palos, cette chanson anonyme, érotique du XVIIe siècle, à la source du Villancico de Joan Serirols, entendu en début d'émission avec une interprétation à la guitare par un autre compositeur et guitariste du Siglo de Oro, Santiago de Murcia, interprété par Paul Odette. Au revoir.
Vous venez d'entendre Art et Affinité, dirigé par Marie-Christine Lanier, émission préenregistrée le 9 mai 2026 et diffusée pour la première fois le 14 mai 2026 de 10h à 11h et réalisée par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.